Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir écouté. RFI à Conakry. Il va être 16h10.
Radio G. 101.5 FM.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présentée par Pierre Benoît.
Halloween qui approche à grands pas et les orthomnales également. Les 26 et 27 octobre prochains, Topette y sera, mais on aura le temps d'ici là de vous en reparler. Demain, nous serons avec les semaines d'information sur la santé mentale, en tout cas le collectif organisateur, coordinateur de l'événement ici à l'échelle de la ville, même du département. Ça se passe du 7 au 20 octobre, c'est en ce moment, on est en plein dedans. Et d'ailleurs, depuis le début de semaine, on diffuse des petits podcasts que nous avons réalisés ensemble, et ce soir on n'y manquera pas, on entendra aussi le podcast de Clémence, je crois, de mémoire. Ce soir surtout, on aura des invités comme tous les soirs, et on va remonter le temps dans un premier temps jusqu'en 1913, au moment de la création de NDC, Notre-Dame-des-Champs Football. Cette année marque les 111 ans de ce club mythique à Angers, quand même Raymond Coppa qui a fait sa fin de carrière dans ce club. Et comme le 11 est un nombre qui parle bien au foot, un ouvrage intitulé « Les 111 ans de football à NDC » est sorti tout récemment. Et Valentin Dedon, l'un des co-auteurs, car oui, il y a eu des collégiens aussi, beaucoup de collégiens qui ont participé à écrire cet ouvrage, est avec nous. Et il est accompagné de Thibaut Volant, manager du club depuis quelques temps, depuis un an, mais il est éducateur depuis plusieurs années, je crois 10 ans précisément. On les entendra tout à l'heure. En deuxième partie d'émission, on va parler aussi d'un autre temps fort. En ce moment, il y a une semaine de sensibilisation du 7 au 13 octobre sur le deuil périnatal, et l'association SPAMA, représentée ce soir par Catherine Potier, Jeanne, y participe et elle nous en parle pour nous en raconter un peu plus. Topette tous les soirs, 18h10, 19h en podcast sur les réseaux sociaux, où vous voulez, jusqu'à 19h, hein, c'est ça, ouais, jusqu'à 19h ce soir, c'est parti.
18h10, 19h. Topette avec Pierre Benoît.
Et comme l'heure du repas approche, on vous propose de faire un petit détour par le podcast de Sarah. On va où ? Et ce soir, nous allons à Odorico.
Salut, c'est Sarah du compte Instagram Mangez-moi. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de ma chronique, le OVO. OVO pour On va où ? Cette fameuse question qui revient systématiquement à chaque fois qu'une envie de convivialité et de bon temps est évoquée. Je vous partage mes bonnes adresses angevines et je vous donne les cartes pour adapter votre choix de lieu en fonction de l'occasion. Alors cette semaine, on va où ? Buonasera ! Aujourd'hui, je vous fais le récit d'une soirée d'exception avec un lieu sublime, un voyage au pays de la découverte gastronomique et des produits du terroir made in Anjou. Bienvenue chez Restaurant Odorico, situé dans le majestueux Hôtel d'Anjou qui tient son nom de l'artiste mosaïste qui porte le même nom. Menu gastronomique en 5 temps avec accord mets et vins aux influences italiennes. Il me faudrait plusieurs heures pour tout vous détailler, mais une chose est sûre, ici vous vivrez une véritable expérience avec une cuisine raffinée, de saison, engagée, que ce soit sur le choix de chaque producteur local ou par la démarche éco-responsable du lieu. Le chef Kevin et son équipe nous ont mis en appétit avec une déclinaison autour de l'oignon, originale et délicate. Mon plat préféré a été l'entrée avec la balade en forêt. Champignons sauvages déglacés au vinaigre d'Anjou, mousse champignons noisettes, crumble de folie sarrasin noisette et sponge cake persil. Un délice, du contraste de température, de texture, une explosion de saveur en bouche et un visuel incroyable. La pasta agnolotti, faite maison avec une pâte à la châtaigne, une farce potimarron et une belle découverte avec le mostarda di Pere. Poire confite dans des graines de moutarde. Un plat doux et réconfortant. Saint-Jacques de Plongée ensuite, avec du chou, une émulsion de barde, les ribots et de la poutargue. Produit trop peu connu et parfaitement mis en valeur sur ce plat. J'ai adoré ensuite le pigeon, surtout sa cuisse confite mélangée au foie et au cœur de pigeon. Autant je les déteste près de moi, mais je les adore dans mon assiette. Dessert léger et frais avec des poires du Maine-et-Loire pochées dans la tonka avec un sorbet des garçons glaciers incroyable. Mignardise succulente et le chocolat de Damien Veto, bientôt dispo en version noire. Les vins étaient à tomber et une belle découverte sur pratiquement que des vins blancs. Si vous souhaitez découvrir l'univers gastronomique, ce lieu sera parfait pour vous initier à la découverte sans trop vous perdre. Le lieu est fabuleux et le service était attentif, souriant, passionné et compétent. Merci Odorico et merci à Carole, la directrice des lieux, pour la superbe visite d'un endroit où vous pouvez venir à tout moment de la journée. Ma prochaine venue chez vous, ce sera pour tester votre sublime petit déjeuner et bientôt votre spa. L'hôtel d'Anjou et son restaurant Odorico, c'est boulevard Foch tous les jours de l'année et tous les bons plans resto, c'est sur mon compte Instagram, mangez-moi.
Eh ben merci Sarah, ça y est, maintenant on a faim. Alors quand on a faim et qu'on mange de trop, on peut aller faire un petit running, un petit peu de foot, pourquoi pas, pour dépenser toutes les calories engrangées. Voilà, j'avais annoncé ça avec un second poteau pavard.
L'invité de Topette sur Radio G.
Oui, j'essaie de trouver un lancement cohérent, raccord avec le foot, notre premier sujet de la soirée. Bonsoir Valentin.
Bonsoir.
Alors Valentin Dedon, écrivain et podcasteur entre autres, et puis je le découvre à l'instant hors antenne, tu es aussi footballeur à NDC, hein, c'est ça ?
Footballeur depuis toujours, d'abord footballeur, ouais.
D'abord
je pense
footballeur.
Que c'est ce qui définit... C'est ce qui me définit le plus, c'est ce qui nous définit le plus, je pense, les footballeurs de tous les clubs de France. Ouais.
T'es à quel poste, toi ?
Plutôt dans le milieu de terrain, mais tous les postes m'intéressent et voilà. Peuvent être occupés si besoin. Ouais.
Un coup, tu mets un but, un coup, tu empêches de mettre un but, si je comprends bien. Tu distribues le ballon, les numéros 9,5, 10, qui disparaissent de plus en plus des terrains de foot, mais ça, on pourrait en parler dans un autre cadre, si vous le voulez bien. Je dis vous parce que t'es accompagné de Thibaut. Bonsoir, Thibaut.
Bonsoir.
Thibaut Volant, manager du club depuis un an et tu es éducateur à NDC depuis une dizaine d'années et aussi licencié, j'ai cru comprendre, défenseur central, c'est ça ?
Exactement, vétéran depuis peu, sur une première année et puis oui, investi déjà au club depuis une dizaine d'années. Je suis arrivé sur Angers dans le cadre de mes études et c'est comme ça que j'ai rejoint le club.
Bon, tu faisais du foot avant peut-être ?
Oui, toujours footballeur aussi, je me reconnais aussi dans les mots de Valentin, on est footballeur avant tout.
Bon, aussi passionnant que soient vos récits, vos parcours de vie footballistique, on va essentiellement parler ensemble de cet ouvrage qu'on a sur la table du studio, 111 ans de football à NDC, qui est sorti tout récemment. Alors 111 ans, donc si on fait le calcul, ça commence en 1913, on est en 2024. De quoi ça parle ? On va en parler dans quelques instants, mais peut-être pour présenter les choses, Thibaut, je me tourne vers toi. NDC, Notre-Dame-des-Champs, club mythique à Angers, est-ce qu'il est encore utile et nécessaire de le présenter ? On va quand même le faire.
Ouais, toujours. Bon, il y a des évolutions. Puis c'est un club qui a bien grandi ces dernières années. Donc oui, c'est toujours utile. C'est un des gros clubs d'Angers, le plus gros club de Maine-et-Loire la saison dernière. Alors, on se bataille un petit peu pour le nombre de licenciés sur la saison qui va venir là, mais plus de 700 licenciés avec toutes les pratiques représentées, aussi bien celles des jeunes, des plus vieux. On peut jouer au foot à NDC de 5 jusqu'à 60, 77, voire 80 ans comme au club.
82 ans, Michel Jalado, le doyen licencié. Ouais.
Donc voilà, aussi bien les garçons que les filles, et puis avec des pratiques un petit peu diversifiées qui sont lancées. Là, je pense au foot en marchant, et puis d'autres pratiques qui existent au club. Donc il se passe plein de choses, du foot évidemment, mais surtout d'autres projets qui font un peu la singularité du club, sur ces dernières années.
NDC, alors un club mythique, évidemment quand on parle de club de foot, on essaye de visualiser un stade, en tout cas pour ce qui est du milieu professionnel, on pense au FC Nantes, on pense à la Beaujoire, à Angesco, on voit stade Raymond Coppa. NDC, c'est géolocalisé où à Angers? Parce que ça c'est une question à laquelle on a moins la réponse parfois.
Alors c'est le stade Bertin, il est du côté de la Doute, là, juste derrière le Clair Camus, donc il y a deux terrains synthétiques et un terrain en herbe. C'est un beau complexe sur lequel on peut bien travailler.
Et ça, depuis combien de temps? Ça fait longtemps que vous êtes là-bas maintenant?
Eh ben là, je vais appeler c'est Valentin qui va venir en aide, parce que moi, j'ai toujours connu ce stade-là, mais il a évolué, donc...
Oui, alors c'est un espace qui a un petit peu évolué, effectivement, le complexe André Bertin, donc le nom André Bertin, déjà c'est un ancien président du SCO, ça a été le stade où s'est entraîné Angers SCO, l'équipe professionnelle pendant un moment, il y avait aussi le stade des Gouronnières juste à côté, et puis les deux complexes se sont un petit peu réunis, bon, toujours est-il que NDC a eu plusieurs terrains un petit peu partout dans Angers, et occupe à peu près cet espace depuis les années 60, je pense, j'ai pas de date précise, mais c'est à peu près depuis cette époque-là.
Et puisqu'on commence justement à parler un petit peu de date, d'histoire, de rétrospective. Avant de parler de l'ouvrage, l'histoire dans les grandes lignes de NDC, ça commence donc pas à cet endroit-là, et ça commence en 1913, ça remonte maintenant. C'est quoi les grandes étapes un peu de ce club mythique, Valentin ?
Alors NDC, donc Notre-Dame-des-Champs, ça commence même avant. C'est d'abord un patronage catholique qui est né en 1851, donc c'était voilà, vraiment un espace où on accueillait des jeunes ouvriers, voilà le patronage où on était sur du jeu et des prières, quoi. Il y avait la dimension évidemment religieuse très présente, et puis une éducation catholique, et puis de donner un petit peu de la matière loisir aussi à des jeunes ouvriers. Et puis après, à l'intérieur de cet espace là le sport est arrivé, le football est arrivé, et donc on date à partir de 1913 à peu près l'arrivée du football, la structuration un peu d'une équipe, la structuration aussi des compétitions locales auxquelles NDC a pris part. C'est vraiment le patronage, et puis le football est arrivé un petit peu partout en France, et s'est répandu à NDC comme ailleurs, et puis après voilà, le club a pris NDC Football a pris progressivement son indépendance.
D'ailleurs, c'est étonnant de constater que les couleurs reprennent un peu celles du Havre, je crois. Et le Havre, c'est par là aussi qu'est arrivé le football en France. Je sais pas si c'est fait exprès.
Ouais, il n'y a pas forcément de lien, mais effectivement, le football étant né, ayant été réglementé en Angleterre, c'est vrai que c'est arrivé par la Manche, et les premiers clubs, c'est plutôt sur l'autre rive de l'Angleterre, et le Havre Athletic Club, c'est le club professionnel doyen. Ouais, effectivement.
Le football association, comme nous disions à l'époque. Voilà pourquoi on parle encore de la FIFA précisément. Thibaut, pardon, je me tourne vers toi, parce que NDC, il y a pas que du foot, il y a aussi des à côté, et justement il y a des actions de sensibilisation, mais peut-être d'éveil aux actions sportives, et puis aussi justement ce qui permet d'aboutir à un ouvrage comme celui dont on va parler maintenant.
Ouais, ce que je disais, ouais, la singularité du club, c'est aussi les projets qui sont hors foot. Alors le club, il se divise un peu entre deux pôles importants, à la fois la partie foot et puis la partie hors foot autour de ce qu'on appelle nous le pôle club lieu de vie, avec des projets tels que d'un projet de développement durable qui vit cette année, comment sur différentes actions, des choses de l'ordre de l'insertion professionnelle, et puis l'académie, comment qui a notamment participé à la construction de ce livre. L'académie à NDC, c'est un groupe d'une cinquantaine d'enfants du CM1 à la 3e qui font à la fois des temps d'accompagnement scolaire et puis des séances de foot supplémentaires. Ça s'est ouvert il y a 9 ans. Moi, j'ai eu l'occasion de développer ce projet dans le cadre d'un service civique. Et puis, le club m'a fait confiance pour faire vivre le projet ensuite, comment, au quotidien. Et donc, l'idée aussi de cette académie, c'est de pouvoir accompagner les enfants un peu plus largement que le foot, et de manière un peu plus globale à travers des projets autres. Donc, c'est des visites de la bibliothèque du quartier, différentes choses qui ont pu être faites dans ce sens-là, avec un tas de projets qui se développent autour aussi de cette académie, qui participent à structurer le club au quotidien.
Oui, en 2024, le sport et la culture sont un peu touche-touche avec ce qui s'est passé cet été. Nous, on va parler de ce livre depuis tout à l'heure. On le tease, 100 ans de football à NDC. On fait juste une courte pause musicale et puis on revient tous ensemble sur le 101.5 FM. Je m'arrête un peu, Bordel Léon.
Allez, je m'arrête un peu. En l'air leur cadence, je respire un peu mieux, j'économise l'essence, je prends le temps à la fenêtre de mater les moineaux, pas sûr ou bien peut-être. Vais-je traîner au bistrot? Allez, je m'arrête un peu. Y a mon corps qui me dit mal. Y a mon cœur qui me dit vieux. Faudra bien que tu te cales. En bas dans le canapé. En haut au fond de ton pieu. Enfin se reposer. La sieste, c'est du sérieux.
Je m'arrête un peu de Bordel Léon sur le 101.5 FM à l'écoute de Topette. Dans quelques instants, on va écouter le podcast sur les enseignants APA de Clémence dans le cadre des SISM qu'on recevra demain ici pour le collectif de Maine-et-Loire. Mais avant tout ça, nous sommes toujours du côté du Stade Bertin, c'est ça, avec Thibaut, éducateur sportif. Non, tu es plus que ça maintenant. Je reprends ton intitulé précis, Thibaut Volant. Tu es manager du club depuis une année maintenant. Félicitations, tu as commencé avec un service civique. En plus, tu nous disais juste avant la pause, donc comme quoi on peut aller loin à NDC. Hein. Et on va parler de ces 111 ans. Alors 111 ans, c'est un chiffre qui intrigue quand même. Souvent, on fête les 100 ans plutôt, mais peut-être qu'on a dû se dire, tiens, 11, c'est un chiffre, un nombre qui parle. Thibaut, Valentin, parlez-nous un petit peu de cet ouvrage, dans quel cadre il s'inscrit et qu'est-ce qu'il raconte?
Alors l'idée de ce livre, c'était de raconter une histoire sportive et humaine du club. C'est un peu le thème qu'on s'est fixé, quoi. Voilà, un club de football, c'est évidemment des matchs, du football, des buts, des trophées, mais il n'y a pas que ça partout et encore plus à NDC. Voilà, il y a toute une histoire humaine, des humanités, des personnages, des beaux moments qui révèlent aussi un esprit du club, et on a voulu à travers ce livre dessiner, quoi, cet esprit particulier qu'on ressent tous et qui crée un attachement.
Ouais. Est-ce que Thibaut, de un, tu confirmes qu'il y a bien ça au club, et est-ce que de deux, tu peux confirmer qu'on ressent bien ça aussi au travers l'ouvrage?
Oui, je confirme évidemment. J'y suis arrivé moi, il y a, on le disait tout à l'heure, une dizaine d'années, et avec les années, j'y passe toujours plus de temps. Ça continue encore, donc il y a ça, il y a évidemment cet attachement, et puis cette ambiance particulière qui existe dans les différents échanges qu'on peut avoir avec les bénévoles, les jeunes, les joueurs, les parents, etc. C'est quelque chose qui ressort et qui transpire. Et puis à la lecture du livre, je trouve que voilà, Valentin a su aussi retranscrire cet esprit-là qu'on retrouve, voilà, évidemment là-dedans. Alors nous, en le vivant, c'est il est évident qu'on s'y retrouve, mais tout ce projet-là, toutes ces anecdotes-là qu'on aime à se raconter, comme d'habitude, de manière très informelle, avoir pu tout recueillir dans un même ouvrage, c'est juste, c'est un super projet, et puis qui plaît déjà au club.
Ouais, désormais, maintenant, il y aura une trace quelque part de cette vie du club. Elle est fixée maintenant, non pas dans le marbre, mais entre les pages de ce joli livre, tout en bleu, tout aux couleurs du club, avec cette étoile. Il est important de la mentionner. Elle est très importante, cette étoile. Valentin, sur la construction de l'édition, de l'écriture, il y avait des collégiens. Comment t'as travaillé et pourquoi cette approche aussi?
Oui, alors déjà, c'est vrai qu'on a voulu aussi faire un livre très accessible, facile à prendre, à ouvrir, pas inhibant, très imagé, très dynamique, avec des contenus textes assez courts, on peut piocher dedans. La deuxième chose, c'est qu'on a voulu vraiment impliquer toutes les composantes du club pour que cet ouvrage soit fait collégialement. Donc c'est passé par le fait de solliciter tous les licenciés à travers un formulaire, que chacun puisse partager ses souvenirs, son lien intime fort au club, pour créer une base d'archives. C'est passé aussi par un comité d'anciens pour partager la mémoire, et puis c'est passé aussi par l'implication d'une vingtaine de collégiens, collégiennes qui font partie de cette académie dont parlait Thibaut, et qu'on a impliqué sur le projet et qui ont écrit un texte, un contenu dans chacun des chapitres, sous la forme d'ateliers d'écriture que j'ai animé avec eux et les éducateurs, les encadrants du club. Et puis ces jeunes-là, ils ont passé un petit peu de temps avec moi, avec le graphiste. Ils sont allés visiter l'imprimerie à Beaucouzé où a été imprimé le livre. Donc voilà, ils ont découvert comment on fabrique un livre, quels sont les métiers autour du livre. Et voilà, on voulait les ouvrir aussi à ça, à cet objet auquel on croit.
11 grands chapitres avec 11 faits marquants à chaque fois. Est-ce qu'on a pu tout dire, Thibaut? Oui, on a quand même un c'est quasiment exhaustif là.
Oui, à la fois oui, en même temps il a fallu forcément faire des choix, parce que 11 c'est pas 12, donc il y a toujours une anecdote, un but, comment une date qui est aussi importante et qui a pas pu forcément rentrer à l'intérieur du livre, mais il y a plein de choses, et encore une fois ça témoigne aussi d'un état d'esprit, et la construction elle est importante. Enfin, Valentin évoquait l'aspect participatif là des licenciés et puis des familles du club, c'est aussi la logique du club bien au-delà, c'est-à-dire le club fonctionne aussi sur des projets de 4 ans qui sont construits de manière participative aussi avec les licenciés et les dirigeants, et je trouve que à la fois ça fait sens dans la construction de ce livre, et en même temps bah ça permet à chacun de se reconnaître à l'intérieur, quoi.
Pour les 111 ans du coup, il n'y aura que ce livre, où il y a des événements annexes, connexes, ou même pour les 100 ans, est-ce qu'il y a eu des, je sais pas, des matchs de gala, par exemple, ou des grands temps forts qui ont été proposés, Thibaut?
Oui, il y a eu un temps fort pour le centenaire. Le centenaire avait été un événement important là au club, qui avait été aussi développé par nombreux bénévoles et dirigeants qui sont des membres du bureau et puis du conseil d'administration aujourd'hui, mais qui sur l'année avait ponctué la saison. Autour de ces 111 ans là, il y a quelques événements, à la fois certains qui s'organisent et puis d'autres qui ont eu lieu. Je pense là à la cérémonie de clôture la saison dernière, où voilà les académiciens ont l'occasion à la fois d'être remerciés d'avoir participé, où on a pu présenter le livre à une grande partie des licenciés. Il y a eu un autre événement l'année dernière aussi important, qui a été une dictée qui a eu lieu au club. Depuis peu là, la fédération invite les clubs à organiser une dictée dans leur club avec leurs licenciés, et donc il y a eu une dictée avec plus d'une centaine de participants qui ont l'occasion de le faire. On l'a fait en partenariat avec l'INSPE, l'Institut de formation des futurs professeurs des écoles, et donc on a présenté le livre, et la particularité cette année c'est que la dictée en France qui a été faite dans les clubs, c'est Valentin qui l'a écrite. Et alors c'est pas nous qui avons démarché Valentin dans ce cadre-là, c'est directement la Fédé et puis le Fonds d'Action du Foot qui organise cette dictée. Mais voilà, c'était aussi un événement particulier, et la rencontre a fait que non seulement il a écrit la dictée et en même temps le livre pour NDC, donc ça faisait aussi beaucoup de sens.
Bon, tout à l'heure on redonnera en fin d'émission les informations pratiques si on a envie de rejoindre le club, puisqu'on a compris que peu importe notre âge, notre sexe, nos conditions physiques, presque on peut trouver chaussures à son pied, crampons à son pied, même à NDC. On reparlera aussi des infos pratiques concernant l'ouvrage, mais s'il y avait un mot à retenir, Valentin, concernant ce beau projet, toi tu ce serait lequel? Ce serait, t'as pas le droit de dire football, t'as pas le droit de dire 11 ni humain, je sais pas, ou peut-être que c'est tout ça en même temps.
Tu as grandi la liste des mots que j'ai pas le droit de
bon,
dire.
C'est une phrase, une petite phrase alors.
Non, mais c'était, je vais dire passionnel, parce que ça a été un projet passionnel. Moi, je joue au club depuis 6 ou 7 ans, et voilà, j'ai eu le temps de découvrir ce club et son intérieur. Et quand on est football, quand on est footballeur, qu'on aime jouer au football, le club de foot c'est un espace très important dans sa vie. On a besoin de cet espace-là, et avoir l'opportunité, la confiance aussi des dirigeants, de pouvoir restituer tout ce qu'on ressent, toute cette charge dans un objet livre qui compte pour moi, parce que c'est mon métier. Ça a été quelque chose de très fort, et je l'ai fait de manière passionnelle et engagée avec tous les autres, et du coup ça a été un moment vraiment génial à vivre, de pouvoir travailler sur ce projet.
Bon, je pense que vous nous avez bien témoigné, retranscrit l'émotion, les émotions qui peuvent exister à NDC.
Et on espère que les lecteurs auront une belle émotion aussi à le lire.
Et tu fais bien d'en parler, parce qu'on va laisser un petit peu de suspense pour savoir comment se le procurer, où le trouver, ce magnifique ouvrage. On le dira tout à l'heure en fin d'émission. On va aborder notre deuxième sujet de la soirée dans quelques instants. Mais avant tout ça, on fait un petit détour par le podcast des SISM 49, semaine d'information sur la santé mentale. C'est le troisième épisode sur la série 9. Et ce soir, on parle des enseignants APA par Clémence.
Bonjour, c'est Clémence, étudiante en formation d'assistante de service social. Si je vous parle aujourd'hui de professionnels du sport au CESAM, l'hôpital psychiatrique d'Angers, qui sont là pour favoriser le mouvement des personnes hospitalisées, savez-vous de qui je parle? Eh bien, je parle des enseignants en activité physique adaptée. Nous en retrouvons 3 qui exercent au CESAM, Amandine Renoux, Thomas Javelot, Anya Motion. Pour devenir enseignant APA, il est nécessaire de faire une licence STAPS, activité physique adaptée santé. Ces enseignants sont au CESAM depuis peu de temps, car c'est dit comme un nouveau métier. Tous sont passionnés par le sport, aiment le contact avec les patients et veulent favoriser le lien social. C'est ce qui les a motivés à faire ce métier. Pour pouvoir disposer d'un moment sportif avec les enseignants APA, il faut au préalable avoir une prescription médicale du médecin, uniquement pour les patients suivis par le CESAM. Cette prescription médicale renseigne la nécessité pour le patient de pratiquer une activité sportive adaptée à sa pathologie. Les objectifs sont divers et variés en fonction des patients et des séances qui se déroulent une fois par semaine. Elles peuvent être en collectif ou bien individuelles. Chaque enseignant à pas est accompagné d'un soignant, car le soignant connaît mieux les patients étant donné qu'il y a un nombre important d'entrées et de sorties des patients du Sésame. Les objectifs peuvent être la remise en mouvement, créer un lien social entre les patients qui peuvent se sentir seuls. Les séances de sport favorisent la rencontre et l'échange, c'est un moment de répit où la maladie n'est plus au centre de leur vie. Ils peuvent oublier quelques instants leur pathologie. Cette séance de sport est vécue comme un défouloir ou bien un échappatoire. C'est un des rares moments où les patients peuvent sortir de leur unité. Par exemple, les enfants qui sont hospitalisés, pour eux c'est un endroit de refuge, dit ordinaire, où ils se sentent comme les autres enfants. C'est ce que m'ont évoqué les enseignants APA du Sésame, travaillant tant bien avec les adultes que les enfants. On retrouve différentes activités au Sésame menées par les enseignants APA, comme des activités en extérieur avec du paddle, de l'acrobranche, de la piscine, de la marche d'orientation. Toutes ces activités permettent de se mettre en mouvement et de favoriser le bien-être mental. Pour Amandine, enseignante APA au Sésame, il est nécessaire de faire un peu de sport chaque jour afin de pouvoir être bien dans son corps et dans sa tête. Le physique et le mental sont liés. Être en bonne santé mentale permet une meilleure santé physique et inversement. De nombreuses évolutions ont été constatées sur des patients atteints de troubles psychiques en se mettant en mouvement. Le sport peut permettre de retrouver un but et de se redécouvrir, de connaître ses capacités physiques et de se surpasser chaque jour. Le fait d'être stimulé permet aussi de moins penser à la maladie. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce point sur les enseignants APA a pu vous faire découvrir cette profession.
L'ensemble des podcasts de cette série de podcasts pour cette année, mais aussi les saisons passées, sont à retrouver dans l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio G. Topette qui continue avec notre deuxième invité de la soirée.
Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Catherine Potier-Jeanne, bénévole de l'association SPAMA. SPAMA qui signifie soins palliatifs et accompagnement maternité. Alors, si tu es là ce soir avec nous, c'est pour parler de la semaine qui a cours en ce moment, du 7 au 13 octobre, de sensibilisation au deuil périnatal. Journée mondiale d'ailleurs, qui donc là, à l'échelle mondiale, qui est portée par une association dont j'ai plus l'acronyme, je crois que c'est aux États-Unis. C'est le 15 octobre et ce jour-là, à 19h, est proposé de créer une vague de lumière où on peut avec un hashtag, prendre une photo d'une bougie en souvenir d'un proche, si on peut dire, en tout cas d'un enfant qui est malheureusement décédé trop tôt. C'est l'objet en fait de l'association SPAMA et de cette semaine de sensibilisation. Pour donner un petit peu de contexte, bien comprendre les choses, Catherine, je te propose de nous parler de SPAMA justement. C'est une association à échelle nationale avec une antenne à Angers, c'est comme ça que ça marche ?
Voilà, c'est une association nationale avec des antennes dans les régions qui travaille essentiellement avec les parents et aussi les soignants. Il y a un double volet pour la SPAMA et la SPAMA est là pour accompagner les parents qui sont touchés par le deuil périnatal. Donc le deuil périnatal, c'est quoi ? C'est vraiment la perte d'un tout petit, in utero ou quelques temps après la naissance. La SPAMA accompagne aussi les parents qui doivent eux-mêmes accompagner un tout petit lors des soins palliatifs et nous mettons à la disposition des parents différentes ressources pour essayer de traverser ce moment qui est terrible pour eux. On parlait tout à l'heure d'émotions joyeuses dans le sport. Là, c'est un tsunami émotionnel qui traverse les parents. Et conjointement avec les soignants aussi, on essaie de réfléchir, d'accompagner au mieux, d'entendre les besoins des uns, des autres, pour être là. Et si on intervient lors de la semaine de sensibilisation au deuil périnatal, c'est que autour de cet événement, il y a un tabou.
Beaucoup de personnes sont concernées en fait de près ou de loin. Je pense qu'on connaît tous quelqu'un dans notre entourage, que ce soit immédiat ou un peu plus étendu, qui a vécu ça. Parce qu'en fait, le deuil périnatal, ça va de la fausse couche à un nourrisson, une mort subite du nourrisson en fait.
Voilà, on peut considérer que dans les 22 semaines d'aménorrhée, on ça commence le deuil périnatal jusqu'aux 7 jours. Bon, ça c'est 7 jours après la naissance. Ça c'est les un bordage
juridique d'une certaine façon.
Pour autant, ça peut déborder. Des parents qui vont perdre un tout petit dans les premiers mois, on va être là aussi pour les accompagner, bien sûr. Hein, c'est pas rigide.
D'un point de vue légal, Catherine, il y a une question de d'état civil aussi qui doit. Ça doit être très dur parce qu'on peut une femme peut être enceinte en fait et perdre son enfant, mais avoir un accouchement qui l'oblige à avoir un état civil. Ça doit être. C'est des choses qui sont très dures et qui l'accompagnement n'est peut-être pas non plus. C'est ça en fait l'objet de.
Alors une évolution de la loi, c'est que les petits qui décèdent ou qui in utero ou ils peuvent être notés sur le livret de famille, mais ça c'est important en fait pour les parents parce que il faut pas croire que c'est de mettre le couvercle et de pas parler, c'est justement tout l'inverse et cette reconnaissance elle est très importante pour les parents et très importante de pouvoir parler, communiquer, faire partager les émotions, parler du tout petit avec les familles. Souvent, les parents, les grands-parents pensent, les frères et sœurs pensent que il faut pas en parler parce que ça va faire trop mal. Mais non, c'est justement en parler et c'est pour ça que pendant cette semaine, là, par exemple, samedi après-midi, il va y avoir un temps créatif avec les parents pour se retrouver, pour créer des petits photos forts, pour échanger, pour parler du tout petit et en même temps pouvoir là c'est lors de cette semaine sur le deuil périnatal il est proposé et ça c'est un mouvement international le 15 octobre à 19h de publier sur les réseaux sociaux cette petite bougie qui va avoir été façonnée pour dire ben, on n'est pas seul et avec le hashtag vague de lumière c'est aussi diffusé. Et surtout pour les parents se sentir reliés. C'est pour ça que l'association SPAMA existe. C'est pour pouvoir accompagner les parents et leur dire vous n'êtes pas seul.
Une toute petite question, Catherine. Est-ce qu'on a des chiffres? Ça représente quoi sur le taux de mortalité en France? Est-ce qu'on a aussi, est-ce qu'on peut constater une évolution en augmentation?
Je ne pourrais pas vous dire précisément, mais on voit que dans notre entourage, il y a beaucoup de décès de tout petits.
Oui, on peut le constater. Ouais.
Mais je préfère ne pas vous donner de chiffres trop précis.
On continue à parler de SPAMA et puis de cette semaine de sensibilisation au deuil périnatal et puis aussi de samedi là qui arrive puisque nous avons Gabin qui va faire un marathon. Tu vas nous expliquer tout ça, Catherine. Dans quelques instants, on fait une micro-pause musicale. On écoute Poisson volant de Rookin et Théophile et on revient juste après.
Tu sais, moi, tu donnes ce que j'ai dans le sang. Et souvent, mon cœur consomme des litres au sang. J'suis pas économe, pas commerçant. Et je crame tout comme l'adolescent.
Je suis rentré dans l'existence. Peut-être pas dans le bon sens. J'me sens décalé, mais c'est sans importance. Faut marcher droit, je suis tordu. Âme de sorcier, corps de moldu. À la part. J'ai pas mordu, poisson volant.
L'amour fut un manège. Quand tu m'avais tendu ce piège, t'avais disparu seulement pour moi. Et j'y ai cru de ma candeur. Maintenant mes phobies ont peur. Quand je suis sincère, c'est l'ascenseur. J'offre la corde de mon cœur. Et c'est un leurre. J'ai plus le cran de m'envoler. Avec les autres m'abandonner. J'ai le vertige de mes anges. Je suis tout en haut comme un étranger. T'as pris le temps que je voulais donner. Pour mes amis et mes amours, j'essaie de polir autrement d'adoucir sur mon visage aride.
Je suis rentré dans l'existence, peut-être pas dans le bon sens.
Poisson volant de Rouquine et Théophile sur le 101.5 FM. Toujours à l'écoute de Topette. On parlait des 111 ans de football à NDC tout à l'heure. On donnera les infos pratiques pour savoir où et quand, comment se procurer ce livre, ce beau livre coécrit avec Valentin Dedon et par tout un tas de collégiens. On est aussi avec Thibaut qui nous redonnera les infos si on a envie de rejoindre NDC. Mais avant tout ça, on continue avec toi, Catherine, de parler de SPAMA, l'association, mais aussi de la semaine de sensibilisation qui a cours en ce moment jusqu'au 13 octobre, au deuil périnatal. Et avant la pause musicale, on commençait à parler de Gabin. C'est un jeune papa, enfin, qui a perdu Lou et qui, pour sensibiliser à la cause, au fait de pas être seul, déjà d'une part, dire aux autres personnes à qui ça peut arriver que oui, il y a d'autres personnes à qui ça arrive et qu'on est tous ensemble, il fait des marathons. Explique-nous ça, Catherine.
Oui, alors Gabin, il est parti de Nantes et il fait tout un marathon, enfin plusieurs marathons pour justement en hommage à sa petite Lou et aussi pour remercier SPAMA qui a contribué à l'aider lorsqu'ils ont perdu leur petite fille. Donc Gabin, il va redémarrer d'Angers samedi matin à 9h30 devant la mairie d'Angers qui l'accueille. Et s'il y a des parents qui ont envie de le rencontrer, des grands-parents ou des personnes qui ont envie de faire un petit bout de chemin avec lui ou simplement l'encourager, eh bien vous êtes les bienvenus.
Alors là, on est mercredi soir, Catherine, il reste encore jusqu'à samedi du temps. Est-ce qu'il y a d'autres événements, des ateliers qui sont prévus pour cette semaine-là?
Alors, pour cette semaine, il y a aussi un atelier qui est prévu samedi à partir de 14h, où il sera possible justement de créer des petits photos forts en hommage aux tout-petits. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la SPAMA. Il y a un besoin de s'inscrire à l'atelier. Donc, vous aurez toutes les coordonnées. Vous tapez simplement SPAMA, S-P-A-M-A, et tout simplement, vous verrez ce qui se passe dans les différentes antennes, dont celle d'Angers.
Ah, justement, le programme, on peut le retrouver, j'imagine, à cet endroit-là, Catherine.
Voilà, c'est ça. Et en même temps, j'en profite aussi pour dire qu'il y a des temps de parole de proposer aux parents qui ont lieu à peu près tous les deux mois à la parentosphère d'Angers. Et pareil, vous aurez toutes les informations sur le site de la SPAMA et les parents, vous êtes les bienvenus.
Eh ben, tu vois, c'est exactement la question suivante que j'allais te poser, savoir s'il y avait d'autres temps forts, d'autres dates qui étaient proposées en dehors de cette semaine de sensibilisation. Tu viens d'y répondre. Peut-être, Catherine, je sais pas comment je pourrais te poser cette question-là, mais s'il y a des parents qui nous écoutent, des jeunes parents ou des parents en devenir qui pourraient être inquiets ou alors qui font face justement à un deuil actuellement, quel mot tu pourrais leur dire?
Le mot que j'aurais envie de leur dire, c'est que ils ne sont pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. C'est vraiment un tel sentiment de désespoir et d'isolement qu'on peut traverser lors de ces moments très douloureux. Et n'hésitez pas à bon, il y a l'association SPAMA, mais il y a d'autres manières aussi de traverser le deuil. Je parle de notre association. Sur le site, il y a la possibilité de parler entre parents, d'avoir une ligne d'écoute, d'avoir des temps en Zoom pour ceux qui sont loin, qui ne peuvent pas venir au temps d'entraide. Partager, oser partager.
Oser parler et partager. Et aller trouver de la lumière, justement.
De la ressource. Voilà. Et chacun va se reconstruire à sa manière. Voilà. Gabin, lui, il court. D'autres vont écrire. D'autres vont créer une petite bibliothèque en l'hommage de leur tout petit. Mais voilà. Essayez de se relier.
Merci Catherine pour ce témoignage, pour ces infos que tu nous relais ce soir dans Topette et puis aussi pour ton engagement au sein de SPAMA. C'est vrai qu'on n'aura pas assez de temps pour en parler, mais toi tu le fais bénévolement, donc tu t'impliques pour cette association là et j'imagine que voilà, c'est que ça tient à cœur de d'être un petit peu une lueur d'espoir quelque part.
C'est ça, c'est la solidarité. Avec les parents.
Avec les parents. En tout cas, l'ensemble du programme de cette semaine de sensibilisation est à retrouver sur le site internet de SPAMA, que tu peux redonner si tu le veux, Catherine, si tu l'as en tête ou sous les yeux, la programmation, les autres dates à venir. Je te laisse ouvrir ton dépliant pour retrouver l'adresse précise.
L'adresse, le site web, c'est association-spama.com, mais tapez SPAMA, vous trouverez toutes les informations. Il n'y a pas de problème.
Et en description du podcast, si vous êtes en train de nous écouter en podcast, vous pouvez retrouver le lien, bien évidemment. Les rendez-vous à prendre, c'est samedi, hein, pour ce qui concerne Angers. Samedi matin, 9h30, pour soutenir Gabin.
C'est ça. Et 14h pour un atelier entre parents.
Merci beaucoup.
Oui, les grands-parents, si les grands-parents souhaitent venir, c'est un atelier ouvert aux familles.
Eh bien,
merci. Les enfants aussi.
Merci Catherine Potier, Jeanne, bénévole de l'association SPAMA dont on vient de parler ce soir dans Topette. Nous étions aussi avec, et nous sommes toujours avec Valentin et Thibaut de NDC Notre-Dame-des-Champs Football. Je sais pas d'ailleurs, Thibaut, je te vois qui me regarde, on dit dans football NDC ou NDC Football, on dit dans quel sens?
NDC Angers Football.
NDC Angers Football, très précisément, on parlait ensemble donc des 111 ans et de cet ouvrage. On fait comment pour l'avoir, Thibaut, Valentin?
Eh ben, on peut venir, il y a deux possibilités, soit venir directement au stade, il est disponible évidemment sur le dans les bureaux, ou bien directement à la buvette, il y a la possibilité de l'acheter, et puis sinon il y a aussi la possibilité de l'avoir via le site internet. Alors comme pour SPAMA, il suffit de taper NDC sur internet et on tombe tout de suite sur le site de NDC, sinon c'est ndcangersfoot.fr. On peut le commander aussi très bien en ligne, et s'il y a besoin, on peut le faire parvenir à ceux qui le souhaiteront. Donc pas hésiter à nous solliciter sur les réseaux aussi.
Valentin, je t'ai vu saisir le micro. Tu voulais rajouter quelque chose peut-être?
Non, c'était au cas où tu me poses une question, mais non, juste te remercier de cette invitation, remercier Catherine aussi pour son engagement, et puis c'est toujours intéressant pour nous de parler de ce projet-là et de le partager au-delà du club aussi, donc que celles et ceux qui sont intéressés n'hésitent pas à nous contacter.
Et puisque t'as le micro, Valentin, d'autres projets en cours, on peut également annoncer Albertine. C'est quand la prochaine émission s'est passée? C'était lundi là, je crois.
Oui, c'était lundi, mais l'émission est disponible en podcast aussi sur le site avec l'invité Catherine Chabot, une grande dame qui a été la première femme à terminer le Vendée Globe en 1996, une navigatrice, et qui nous parle de ses grands-mères. Donc c'est l'objet de cette émission, Albertine. Ouais.
Valentin qui est multi-poste, hein, si on reste dans le registre footballistique, puisqu'il anime aussi donc Albertine à 13h, un lundi sur deux sur le 100.5 FM et à tout instant en podcast. Merci beaucoup Valentin d'être venu ce soir pour nous parler de ce beau projet concret. D'ailleurs, c'est plus un projet, hein, c'est concret. Merci aussi Thibaut. Thibaut, d'un mot, si on veut rejoindre NDC Angers Football, peu importe l'âge qu'on a, on fait comment?
De la même manière, via le site internet ou directement en venant au club. On a la chance d'avoir une grosse équipe de salariés et de permanents au club qui vous accueilleront avec plaisir.
Voilà, et Thibaut qui fera partie de l'équipe vétéran, hein, si j'ai bien compris, à l'avenir, hein, parce que t'as pas l'air de vouloir lâcher le NDC pour l'instant.
C'est notre recrue cette saison en vétéran.
Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vétéran, ça commence dès...
C'est à partir de 34 ans.
La première année, je pouvais pas jouer l'année 33, dernière, mais je démarre tout juste cette année, exactement, dans la saison de ces 34 ans.
Bon, merci beaucoup en tout cas d'être venu ce soir dans Topette pour nous parler de cet ouvrage. Merci encore Catherine également. Nous, on se retrouve demain, bien évidemment. On saura avec qui demain je reprends le programme. Bah, les SISM 49, on va parler donc des semaines d'information sur la santé mentale, les semaines, parce que contrairement au deuil périnatal, il y a une semaine en plus. Ça va jusqu'au 20 octobre et on saura avec le collectif organisateur en Maine-et-Loire. Prenez soin de vous, à demain. Topette, on se quitte avec le Synops.
Bonjour, c'est le Synops, la splendeur du cinéma d'auteur. Lundi 16 septembre à 20h au cinéma d'art et d'essai d'Angers, Les 400 coups, un documentaire explosif, pour ne pas dire volcanique, était projeté en avant-première en présence de son réalisateur Claude Beichtolt. Son nom, c'est Riverboom. Matisse et moi-même avons donc visionné ce dernier afin de vous livrer notre avis sur un documentaire alliant absurdité sans limite à la réalité d'un pays en guerre, mêlant le rire au sentiment avec humanité. Petite nuance, Matisse malheureusement ne pourra pas se joindre à moi pour cette émission. C'est triste, mais je pense sincèrement que j'arriverai à m'en remettre. En tout cas, pour revenir à Riverboom, ce dernier sortira en salle le 25 septembre. Toutes ces informations sont évidemment retrouvées sur le site des 400 coups. Riverboom, réalisé par Claude Beichtolt, est une immersion unique dans une odyssée singulière de trois reporters de guerre plongés au plus profond du chaos de l'Afghanistan au lendemain des attentats du 11 septembre 2001. Dans le contexte de l'opération Enduring Freedom, lancée par les États-Unis puis ralliée par l'OTAN, le but est simple, détruire les infrastructures terroristes d'Al-Qaïda, chasser les talibans du pouvoir et surtout pouvoir s'abreuver aussi en pétrole. Le pays va se retrouver alors piégé dans un nœud mêlant conflit politique et social résultant sur une guerre sanglante. C'est alors que Serge, un journaliste moraliste et bourreau de travail, Paolo, un photographe aussi jovial qu'inconscient, et Claude, un typographe suisse froussard qui va s'improviser cinéaste, s'engagent dans un drôle de road trip de 30 jours. Les trois compères prennent pied sur un territoire afin de tirer au clair cette situation plus que complexe. Claude, embarqué dans cette aventure malgré lui, va décider d'acheter une caméra vidéo dans un bazar à Kaboul et va donc se construire un road movie palpitant et un documentaire oscillant entre moments de tension et comédie involontaire. Alors, pour débuter ce débat qui se passera donc, on va dire, avec une seule personne, ce qui est assez particulier, donc ça va être plutôt, je dirais, une forme de déroulé simple donc de ma perception de ce film, en reprenant les idées de Matisse, et on était assez en accord là-dessus, mais je vais donc débuter, je vais être très sincère aussi, c'est que lorsque le film a commencé, je ne savais pas trop où est-ce que Claude Beichtolt, en fait, nous entraînait. On a dans les premières minutes une forme de remise en contexte de sa vie, qui est teintée d'humour, mais qui est très, voire trop énergique, où tout va très vite. Je me suis dit alors, oula, est-ce que c'est réellement un docu sur la situation en Afghanistan ou est-ce que c'est juste un autoportrait ? Bah oui et non, en fait, à partir du moment où il pose son pied dans le pays et qu'il a son problème avec l'avion, j'ai tout de suite capté l'ambiance dans laquelle ce film allait nous envelopper. Quelque chose de complètement déjanté, à l'humour découpé au scalpel sur un type qui est perdu dans sa vie et qui a vécu une aventure si hors du commun qu'il a trouvé un sens si grandiose aussi là-dedans que finalement il a décidé de nous le partager. Et à partir de là, je me suis dit, ok, bah je lui donne carte blanche. Ce qui est aussi très intéressant, c'est dans ce film la forme de ce trio qui est éclectique, qui va aussi détonner avec le cadre qui est très sérieux initialement. Le plan de base, c'est de suivre un journaliste en plein reportage de guerre avec son photographe. On s'attend alors naturellement à des moments très sombres, très crus. Mais la différence de personnalité de Paolo, de Serge et de Claude, qui est pour chacun si singulière, mais dans le même temps si complémentaire, va, je dirais, accueillir le spectateur au sein du groupe. Où on s'immerge dans toute leur situation accadabrantesque, puisque quelque part, on se sent embarqué avec eux dans leur road trip. Ça se renvoie dans leurs débats, dans leurs blagues, dans leurs folles péripéties. Ce qui m'entraîne sur ce point technique, qui vient appuyer ce que je dis, la grande force de ce film, c'est aussi la manière dont la caméra est utilisée. À savoir qu'elle est très mal utilisée. Le fait qu'il n'y ait pratiquement aucun plan fixe, que tout tremble et que tout est filmé sur le tas, entre guillemets, ça fait de la caméra l'œil et l'oreille du spectateur en permanence dans la poche de Claude Beichtolt. On va avoir aussi ce côté où très maboule et drôle de ce long métrage et qui va revenir, j'irai, en priorité. Mais je pense surtout aussi que la trame narrative et le fil conducteur de ce film reposent sur un grand sérieux. Tout est porté par le métier de journaliste de Serge, finalement, qui a sa mission initiale de faire un état des lieux de la situation en Afghanistan depuis l'arrivée des États-Unis. Le road trip qui est montré en image tout au long du documentaire est très strict, réfléchi en amont par Serge, avec des points étapes bien précis et des personnalités à interviewer, etc., etc. Ce qui donne alors tout le sens du pourquoi ce film est un documentaire. Car ce ne sont pas aussi des amis dans un road trip exotique, mais bel et bien des reporters de guerre dans une situation plus qu'incertaine. Et alors, la pierre de jade se trouve là, c'est l'aspect qu'a voulu défendre Beichtolt en réalisant Riverboom. À quoi bon s'inquiéter dans les situations où on ne maîtrise plus rien ? Et donc, la problématique sur laquelle aussi on a réfléchi, c'est là où la guerre fait rage, où des vies entières vont être détruites. Bah, le traitement des médias est toujours identique. On va renvoyer un visage honnête d'un pays dans une situation plus qu'alarmante et désespérée. Mais est-ce que finalement, en apportant cette fatalité, on ne tuerait pas l'espoir d'un pays qui a le droit à sourire de nouveau ? Claude Beichtolt apporte cette réponse. Non, il faut chercher ces quelques endroits où l'humanisme rayonne encore, car il donne à ces pays la perspective d'un avenir radieux. Voilà notre analyse, donc notre analyse partagée, mais que de moi pour cet épisode sur le documentaire donc Riverboom, réalisé par Claude Beichtolt. Elle va se clôturer là. Je vous remercie en même temps. On vous remercie chaleureusement de nous avoir écoutés. On vous attend également avec grand enthousiasme pour notre prochain numéro. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur notre page Instagram @lesynopse tout attaché. En tout cas, jusqu'ici, portez-vous bien. À très vite.